Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Après plusieurs mois de suspense, Emmanuel Ramazani Shadary vient d'être désigné comme dauphin de Joseph Kabila. Sa candidature à l'élection présidentielle a été déposée ce mercredi 8 août à la CENI. La Commission électorale nationale indépendante clôture aujourd'hui 8 août l'opération de dépôt de candidature pour les élections présidentielles et les législatives nationales. S'agissant de l'élection présidentielle, jusqu'ici environ une vingtaine de candidatures ont été déposées. Ce soir, dialogue entre Congolais, faire les points de la situation avec les analystes. Nous avons donc ici au studio Israël Moutala, il est journaliste, il est aussi analyste politique et économique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir Guy Maté.
Christian Moleka, analyste, il est coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir Christian Moleka.
Bonsoir Guy Maté.
Et au téléphone, c'est le professeur Jeff Mundimbi, le professeur à la faculté des sciences sociales, le département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir professeur Jeff Mundimbi.
Bonsoir monsieur Guy Maté.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Processus électoral en RDC, c'est ce mercredi que la Commission électorale nationale indépendante CENI met fin à la réception des candidatures pour la présidentielle de décembre prochain, mais également pour les législatives nationales. Le nombre de candidats reçus pour les législatives n'est pas encore connu, mais ceux de la présidentielle avoisinent la vingtaine. Qui sont-ils? On écoute ces papiers de Donna Madimba.
En attendant la liste officielle de la CENI, les candidats présidents de la République enregistrés ces jours-ci dans les bureaux de la centrale électorale de la RDC sont pour la plupart des grands habitués de la scène politique du pays. Dans le camp des proches de la dernière majorité présidentielle, il y a notamment Tryphon Kin-Kiemoulumba et Emmanuel Ramazani Shadary qui ont déposé leur candidature. À cela, il faut ajouter les opposants, les indépendants ou non alignés. Parmi les plus connus dans cette vague, on retient notamment Félix Tshisekedi de l'UDPS, Jean-Pierre Bemba du MLC, Vital Kamerhe de l'UNC, Adolfo Mozito, Martin Fayulu, Freddy Matungulu et Sami Badibanga. Quelques nouveaux figurent également parmi les candidats à la présidentielle congolaise de décembre prochain. Il s'agit de Raja Bombira, Michel Okongo, Jean-Paul Moka et Yves Mpunga.
Merci à vous, Dona Madimba. Emmanuel Ramazani Shadary est le candidat du Front commun pour le Congo à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain en RDC. C'est le dauphin que le chef de l'État, Joseph Kabila, vient d'annoncer par le truchement du ministre de la Communication et Médias. C'était au cours d'un point de presse que Lambert Mende a animé ce mercredi à son cabinet. Mais de qui s'agit-il exactement? Le ministre présente ici le candidat du FCC au micro de Jeff Ngoy.
Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD, né en 1960 à Kabambare, dans la province du Maniema. Marié et père de 8 enfants, il est diplômé d'études spéciales en sciences politiques de l'Université de Kinshasa. Il est licencié en sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Il est député élu en 2006 et en 2011 de la circonscription de Kabambare. Il a été président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, puis coordonnateur de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Ensuite, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, secrétaire général adjoint, puis actuellement secrétaire permanent du PPRD. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadary, notre candidat, est catholique pratiquant.
Professeur Jeff Mundimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Clôture de l'opération de dépôt des candidatures pour la présidentielle et la députation nationale. Environ une vingtaine de candidatures à la présidentielle. Comment vous analysez cela, professeur Jeff Mundimbi?
Merci beaucoup, M. Guy Maté, pour la question que vous venez de me poser. Alors, répondant à votre question, je me réjouis sincèrement, il faut le dire, que le président de la République ait pris de la hauteur pour confondre davantage certains flatteurs courtisans qui le poussaient parfois à rester au pouvoir alors que la Constitution ne le lui autorisait pas. Et ceci montre que le président de la République a été vraiment au-dessus des passions des uns comme aussi des autres en respectant la Constitution, ce qui est une bonne chose et je pense que ma joie peut être partagée par bon nombre de Congolais. Alors, en ce qui concerne les candidats, moi je pourrais dire que, bon, ce qui est évident, c'est que il y a des candidats qui ont été aux côtés du président de la République et qui n'ont pas malheureusement patienté que le président de la République ait fait son choix, qui se sont directement présentés comme candidats. Et d'autres aussi, comptant peut-être sur la faiblesse de la mémoire de certains pauvres Congolais, sont allés déposer leur candidature, alors que nous savons que lorsqu'ils ont été aux affaires, ils ont brillé par une certaine extravagance, notamment le fait de vouloir récupérer des véhicules de la primature de manière indue. Il y a aussi d'autres candidats qui ont été exclus, c'est notamment ici le cas de Moïse. Il faudrait le rappeler, mais ce que personnellement, quand j'analyse la situation, je n'arrive pas à comprendre, c'est de constater que, bon, il y a, au regard des informations que nous avons suivies sur vos chaînes, il y a des candidats qui ne sont pas sur place, mais qui ont réussi quand même à déposer leur candidature par leur mandataire. Et nous pensions que le candidat Moïse Katumbi pouvait aussi le faire pour peut-être permettre aux Congolais d'assister à une certaine inclusivité des prétendants à la magistrature suprême. Mais cela n'a pas été le cas. Alors, peut-être ce qui est beaucoup plus à la une, c'est le choix du candidat. Pourquoi est-ce que le FCC a présenté
voilà,
professeur
Mudimbi.
Oui.
Nous allons y revenir. Restons sur les personnes qui ont déposé les candidatures aujourd'hui. Parmi ces vingtaines, n'est-ce pas, des candidatures, il y a une seule femme. Comment vous comprenez cela?
C'est vrai. Il faut reconnaître une chose, que le pouvoir, d'une manière ou d'une autre, non, d'abord, la culture politique congolaise est telle qu'il y a certains préjugés défavorables vis-à-vis de la femme. D'abord, premièrement, premièrement, le fait qu'on n'a pas tellement encore intériorisé la culture selon laquelle la femme doit diriger. Ça, c'est un problème, donc un préjugé défavorable. Et de deux, lorsque nous considérons aussi le nombre de femmes qui ont étudié par rapport à celui des hommes, en tout cas, il s'avère que les femmes qui ont le plus étudié, qui ont fait les grandes études, sont à compter au bout des doigts. Par ailleurs, il ne faudrait pas aussi perdre de vue le fait de la caution même qui a été exigée. Alors, combien de femmes peuvent disposer suffisamment des moyens pour arriver à verser cette caution-là? Qui plus est, combien de femmes ont réussi à créer des partis politiques, sont des leaders des partis politiques. Donc, elles sont vraiment à compter au bout des doigts. Je pense que c'est autant d'éléments non exhaustifs, bien entendu, qui peuvent expliquer la présence très réduite ou minime des femmes à la candidature, donc à la magistrature suprême.
Oui, professeur, vous avez dit que vous vous réjouissez, n'est-ce pas, du fait que le président Kabila ait pris, n'est-ce pas, de la hauteur en désignant un dauphin. Peut-on dire qu'à travers cette désignation, c'est l'assurance que Kabila ne va pas se représenter?
Oui, absolument, parce que nous savons que tout se clôture aujourd'hui. Et le président de la CENI, si réellement il est respectueux de sa parole, il a très bien dit qu'il n'y aura pas de prolongation. Alors nous pensons qu'à partir du moment où le président a désigné son dauphin, il ne pourra plus encore se représenter ou chercher à briguer un troisième mandat. Ce qui est vraiment un signe un acte à saluer, parce que au moins, pour une première fois en RDC, nous allons assister à une alternance pacifique au niveau de la haute hiérarchie étatique en RDC.
Alors, professeur, cette désignation de M. Emmanuel Chadari, n'est-ce pas une surprise, étant donné que son nom n'était pas cité parmi ceux qui circulaient depuis quelques semaines?
Oui, effectivement, c'est une surprise. C'est là que je voulais en venir pour dire que, bon, c'est vrai, le fait pour le président de la République de désigner son dauphin a été salué par tout le monde. Alors pourquoi est-ce que les gens ont réussi à saluer et ont salué ce geste-là? C'est tout simplement parce que, contrairement à ce que les gens faisaient croire au président de la République, que Toton Dinani, Toton Dionanouté, mais on a compris que le peuple congolais ne voulait pas du troisième mandat. Alors, effectivement, Emmanuel Chadari, c'est pratiquement l'oiseau rare. Alors, c'est ainsi que, quand j'analyse la chose, je me suis dit que le président de la République a attendu la dernière minute, tout simplement pour empêcher, parce que le choix du président de la République, le choix de l'autorité morale du FCC,
merci,
n'est pas nécessairement le choix
de la famille politique
ou la volonté de toutes les composantes de cette plateforme.
Merci, professeur. Merci,
alors,
nous allons revenir.
Pour empêcher les autres candidats qui ne seraient pas contents de cette candidature, peut-être le président de la République a joué en stratège pour annoncer cette candidature-là,
merci,
à quelques heures seulement de la clôture de dépôt des candidatures.
Merci, professeur Israël Moutala, journaliste. Vous êtes analyste politique et économique. Votre analyse par rapport à la clôture de cette opération des candidatures.
Je me réjouis de ce que le processus s'est très bien déroulé. Et donc, la première conclusion, c'est que aujourd'hui, avec la non-candidature actée du président de la République, une page importante de notre histoire politique vient de s'écrire. Donc, il s'ouvre une perspective de paix, une perspective historique d'alternance pacifique, démocratique, au pouvoir en RDC depuis 1960. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour qu'il faut absolument saluer, parce qu'un événement important s'y est produit. Et donc, comme conséquence, je dirais que le pacte républicain, qui est l'autre constitution, a été respecté, surtout dans ses dispositions intangibles du principe de deux mandats et pas plus. Et donc, c'est un progrès démocratique considérable. Je dirais aussi que la cohésion nationale va se trouver renforcée par cet acte de non-candidature du président de la République, qui était à la base justement de beaucoup de suspicions, qui était à la base de beaucoup de tensions politiques. Je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des tensions va s'évaporer, va s'évanouir, parce que le chef de l'État a respecté la Constitution dans ses dispositions intangibles. Je dirais aussi que aujourd'hui aussi, c'est la victoire de l'idée qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Le chef de l'État est un homme. C'est un maillon parmi une longue chaîne. Il a fait un travail appréciable à certains égards. Il a fait du bon, du moins bon, du meilleur, et parfois du pire par-ci par-là. C'est un bilan global qu'il faut analyser, mais il n'y a personne d'indispensable. Et donc c'est un principe aussi qui vient d'être acté. Et enfin, j'aimerais dire que le chef de l'État, comment dirais-je, a montré aussi qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas des réflexes tribaux, régionaux, comme certains voulaient l'y pousser. Et donc parce que le candidat désigné par sa famille politique aujourd'hui n'est pas ressortissant de sa province, l'ex-Katanga. Mais il y a plusieurs leçons, je vais aller très vite. Cette page historique ne s'est pas tournée, on l'a pas écrite facilement tout de suite, parce que la crise en RDC c'est depuis 2015. Et donc cette victoire, c'est la victoire aussi des mouvements d'éveil citoyen, Lucha, Filimbi. Je salue la bravoure de tous ces mouvements citoyens qui, au péril de leur vie, ont disait qu'il fallait respecter la Constitution. Cette victoire d'aujourd'hui, c'est aussi la victoire des intellectuels congolais, certains, qui avaient clairement dit, pris position pour le respect de la Constitution. C'est la victoire de la CENCO, c'est la victoire de l'opposition dans sa diversité. C'est aussi la victoire de la société civile. Et donc, je terminerai mon mot en disant aussi que c'est aussi la victoire de la communauté internationale à certains égards.
Et comment vous expliquez?
Bien entendu, comme je le dis aussi tantôt, c'est aussi la victoire du chef de l'État lui-même. Et donc, je pense que la victoire d'aujourd'hui est une victoire collective qui n'est pas exclusive. Et donc, il faudrait aujourd'hui positiver. Voilà un peu pour
victoire,
moi, c'est une journée historique, donc je suis ému de constater que la RDC va naviguer à contre-courant de beaucoup de pays de la sous-région et ouvrir une belle page d'opportunités positives, de paix, de progrès, de prospérité.
Victoire collective, comme vous le dites, mais comment vous comprenez que de toutes ces personnalités dont les noms étaient cités, notamment Matata Ponyo, Obin Minaku, le général Etumba, Modeste Bahati Lukwebo, aucune de ces personnalités n'a été désignée, c'est plutôt Shadary, dont les noms n'étaient évoqués nulle part, qui est finalement les dauphins.
Non, ça veut dire que au tout début, le nom de Shadary était évoqué. Mais à la fin, il n'était plus dans les favoris. Mais il faut dire d'abord que les 11 critères qu'avait édicté le président de la République lui-même faisaient en sorte que plusieurs cadres de la majorité les remplissaient. Et donc aujourd'hui, le choix qui est tombé sur Shadary pouvait tomber sur d'autres choix de qualité. Pouvait tomber sur Mova, pouvait tomber sur Matata, pouvait tomber sur Yuma, pouvait tomber sur Minaku. Sur Évariste Boshab, à la majorité, il y a plusieurs personnalités qui remplissaient parfaitement ces critères de loyauté, de compétence, de nationalisme. Bref, il y avait plusieurs. Mais enfin, c'est le ressenti du président de la République lui-même. Et donc, il a parlé avec chacun de regroupements qui composent le FCC. Il a jaugé, il a eu des apartés. Donc, c'est un processus qu'il a mené de bout en bout dans le secret de sa conscience.
On peut aujourd'hui dire que Shadary n'est pas désigné par le FCC, mais c'est plutôt l'émanation de la volonté de Joseph Kabila.
Absolument, ça veut dire que il est aussi, c'était le candidat du FCC parce que les gens s'étaient mis d'accord sur la méthode. La méthode était que ils vont faire des propositions, de ces propositions-là, le chef de l'État, en tant qu'autorité morale de cette famille politique-là, il va justement désigner un parmi eux. Et donc, dès lors que tous les signataires de la charte FCC étaient d'accord sur cette méthode, Shadary est leur candidat. Donc, ils étaient déjà au courant de la procédure à suivre pour sa désignation. Et donc, aujourd'hui, Shadary n'est pas seulement le candidat du chef de l'État, bien qu'il emporte la marque particulière, mais c'est le candidat et du chef de l'État et du FCC. J'aimerais terminer sur les candidats en un mot, pour dire que sur tous les candidats, je dégage trois catégories. Il y a des candidatures sérieuses, il y a des candidatures de positionnement, des gens qui sont sérieuses, ce sont des candidatures des gens qui ont des réelles chances de gagner la présidentielle, qui ont des structures, des formations, des partis politiques, des idées, des hommes pour faire triompher leur camp. Il y a des candidatures de positionnement, des gens qui savent que ils ne peuvent pas gagner, mais ils veulent marchander pour avoir de postes dans les futurs gouvernements. Il y a aussi des candidatures pour la gloriole, Et il y a aussi des candidatures qui vont servir d'autres causes humanitaires ou commerciales.
Merci.
Voilà un peu les quatre catégories des candidatures que moi j'ai analysées parmi la vingtaine que vous avez énumérées tout à l'heure.
Merci Christian Moleka, analyste. Vous êtes coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Une des étapes importantes, n'est-ce pas, du processus électoral, c'est cette opération de dépôt des candidatures. Peut-on, à ce stade, affirmer que les élections du 23 décembre prochain sont irréversibles?
On peut dire que oui, exactement, le processus est irréversible. Pour moi, quoi qu'il reste encore quelques écueils à relever, notamment le consensus sur la machine à voter, sur le fichier électoral, et bien évidemment des mesures de décrispation telles qu'est soulevées par quelques-uns pour des élections assez inclusives. En tout cas, partant des éléments qui sont avancés à ce jour, on peut dire que le processus était déjà sur la bonne voie.
Alors, plusieurs candidats ont annoncé leur intention, n'est-ce pas, de postuler à la présidentielle? Mais peu ont déposé effectivement leur candidature. Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Bon, il y a d'un côté les intentions et d'autre les capacités réelles de gagner. je partage en partie l'analyse d'Israël. Il y a des prétendants sérieux qui peuvent réunir à la fois les moyens et humains, matériels, logistiques pour les élections, et d'autres qui ont postulé peut-être en termes de posture, notamment ceux de la diaspora. Et si vous l'avez soulevé tantôt, il y a beaucoup de candidats par rapport à 2011. C'est parce qu'il y a également cette participation plus grande de la diaspora. Auparavant, nous n'avions que Oscar Kachala qui venait, et aujourd'hui, on en a un peu plus de trois qui viennent de la diaspora et qui démontrent l'intérêt que la diaspora a de plus en plus sur les questions de la politique intérieure. Donc, ça peut justifier en partie ce pléthore de candidatures, mais également l'éclatement de l'UDPS avec la candidature de Sami Badibanga qui accompagne Félix Tshisekedi, et puis les habituels que nous avons, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et d'autres nouveaux comme Atongoulou qui sont venus ajouter. Donc voilà, on a le format habituel, puis cette ouverture de la diaspora et quelques nouveaux nés à la fois de l'éclatement de l'UDPS, mais également de la participation plus grande de la diaspora dans la classe politique, dans la scène politique actuelle. Donc voilà un peu ce qui peut justifier ce grand nombre.
Et à votre avis, c'est quoi l'enjeu de la désignation d'Emmanuel Chadari comme dauphin de Joseph Kabila?
Le premier enjeu, c'est qu'il est du PPRD. Et il faut le signaler, parce que pendant quelques temps, on a entendu parler d'une possible candidature du Palou. On a parlé tout le temps de l'accord qui existerait entre le Palou et le PPRD. Le PPRD s'est arraché à nouveau la part du lion. Voyons voir comment les partenaires, les alliés du PPRD dans les jeux à venir vont se comporter, notamment le Palou, qui attendait à avoir également mot à dire sous le dauphin. Deuxièmement, Chadari du Maniema, c'est-à-dire de l'espace Grand Kivu. Pendant longtemps, le régime s'est appuyé sous les Katanga, qui a été le cœur du pouvoir. Donc géopolitiquement, les choses vont un peu muter, parce que le pouvoir se recentre vers le Grand Kivu, notamment le Maniema et le Sud Kivu. Et donc, viens voir également comment géopolitiquement l'espace Katanga, notamment les Balubakat, vont réagir à ce nouveau. Et ce sont les grands enjeux qui vont tourner. Et puis, il y a bien évidemment cette capacité à recentrer autour de sa candidature toutes les personnes. On a parlé de Bahati, on a parlé de Minaku, on a parlé de Batata et de Bouchab. Cette capacité à centraliser, à centrer tous ces gens autour de lui, autour d'une vision, pour le vendre auprès de l'opinion. Parce que si en face l'opposition présente plusieurs candidatures, attendons septembre, s'il y aura peut-être également un bloc, nous pourrons assister à des élections très serrées. Et il faudrait voir quelle sera sa capacité ou la capacité du FCC à rassembler autour de Chadari.
Et que répondez-vous à ceux qui pensent que dans la désignation de Chadari, les critères qui a prévalu, c'est celui de la loyauté?
Chadari est un homme loyal. C'est un homme qui a travaillé longtemps aux côtés du président, mais pratiquement dans l'ombre, depuis très très longtemps, et qui a fait preuve de beaucoup de ténacité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait de coup sur coup, durant les périodes presque troubles de 2015-2016. Il y a d'un côté, oui, cette nature d'homme de compagnie, d'homme de route qui a longtemps milité au niveau du parti, au niveau de l'Assemblée nationale, où il a été d'abord à côté d'Aubin Minaku, président du groupe parlementaire, puis président du groupe parlementaire, qui a été au feu et au bois pendant les périodes 2015 et 2016 lorsqu'il était CGA du PPRD, et qui a été comme ministre de l'Intérieur également au feu lorsqu'il a fallu à un moment donné répondre aux questions de Kamuna Sapo Kasai, à l'époque il était ministre de l'Intérieur. Donc c'est quelqu'un qui a été longtemps aux côtés du chef, et le critère de fidélité et de loyauté peut servir à justifier sa nomination. Mais au-delà de cela, il y a le fait qu'il était le moins conflictuel, de mon point de vue, de tous les autres candidats qui auraient pu diviser. Je crois qu'il est celui qui le moins diviserait le FCC, la majorité, à ce stade des enjeux.
Vous pensez qu'il fait l'unanimité parce qu'il y a le professeur Kinke Mulumba qui a postulé, il y a même le patriarche Gizenga qui vient de déposer sa candidature. Est-ce une stratégie de la famille politique de Joseph Kabila ou les reflets des malaises, n'est-ce pas, au sein des...
Comme je l'ai dit, ce n'est pas l'unanimité, c'est peut-être l'homme qui le moins peut diviser. Et comme je l'ai dit tantôt, le Palou, il fallait suivre la réaction du Palou. Parce que pendant un temps, on a cru que la majorité présidentielle passerait le bâton au Palou. On a tout le temps parlé des accords secrets. Donc, il fallait voir dans les jours à venir, vous l'avez annoncé déjà, le comportement du Palou. C'est la personne qui peut le moins diviser, mais le casting reste compliqué parce qu'il faut rassembler autour de lui, notamment rassembler avec les alliés comme le Palou ou l'espace Katangais qu'il faudra bien gérer dans les jours à venir.
Et maintenant que le Palou a un candidat, à la personne du patriarche Gizenga?
Je pense qu'il faudra observer avec beaucoup d'attention les jours à venir, les tractations qui se feront, parce que il est possible que les candidats se retirent au profit des uns et des autres. Donc il faudra suivre avec attention les jours qui vont venir. Il y aura certainement des consultations et ça pourra aboutir soit à des retraits de candidatures, soit alors à l'implosion de la majorité présidentielle.
Est-ce que vous voyez le président Joseph Kabila tenter l'expérience de Poutine avec Medvedev?
Je dirais plutôt l'expérience angolaise, parce que lorsqu'on voit comment le PPRD a commencé par modifier les statuts en créant un poste de président qui n'existe pas et qui donne directement au président un poste de commandement à l'extérieur de l'appareil de l'État, on a presque le sentiment que Kabila a choisi son Lourenço en espérant que celui-ci ne prendra pas des distances comme on l'a vu en Angola. C'est presque le scénario angolais qu'on est en train de reproduire chez nous.
Professeur Jeff Mudimbi, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Goma au Nord Kivu.
Thierry Machagiro, depuis la ville de Goma au Nord Kivu. À mon avis, c'est une avancée dans l'organisation des élections tant attendue depuis l'expiration du dernier mandat du président Joseph Kabila en 2016. Cependant, l'exclusion de Moïse Katumbi, le maintien de la machine à voter, démontre à suffisant à quel point les élections à venir ne seront pas crédibles. Ceci dit, j'invite les uns et les autres à suivre le processus électoral comme la casserole d'huile sur le feu.
Oui, professeur Jeff Mudimbi.
Et je voudrais bien saluer l'analyse de notre compatriote. En effet, il est une vérité indéniable que le fait pour le président de la République de se choisir déjà un dauphin constitue pour l'ensemble du pays et même pour la jeune démocratie congolaise un geste à saluer. Mais comme vous le savez, il y a encore un autre champ sur lequel il faudrait focaliser beaucoup plus l'attention, c'est notamment celui de l'organisation des élections libres et apaisées. Et le fait que certaines personnalités qui ont désiré déposer leur candidature en bonne et due forme, mais qui ont été empêchées, peut créer des malaises. Alors c'est ainsi qu'il faudrait aussi repenser à cette question de sorte que l'issue des élections soit heureuse pour l'ensemble du pays.
Voilà, il y a aussi, n'est-ce pas, tous ces préalables qui sont évoqués par l'opposition, notamment le fait que la CENI puisse élaguer les 10 millions de personnes qui se sont fait enrôler sans empreinte digitale.
Oui, vous avez raison, c'est comme je l'ai dit là, une autre paire de manches ou encore un autre champ sur lequel il faudrait s'apesantir. En effet, pour que les élections soient apaisées, il faudrait que les classes politiques en RDC puissent se mettre d'accord sur un certain nombre de préalables. Aujourd'hui, il est clairement établi que l'opposition, par exemple, n'est pas d'accord avec l'organe chargé de l'organisation des élections, à savoir ici la CENI, sur le fichier électoral qui doit être nettoyé, et aussi sur la machine à voter. Alors, c'est ainsi que nous demandons qu'il y ait vraiment beaucoup plus de consensus, beaucoup plus d'entente entre cet organe et l'opposition sur la machine à voter et sur le fichier électoral qui a déjà fait l'objet de beaucoup de discussions sur la radio Okapi. Alors, nous prierons peut-être au président de la CENI de donner beaucoup plus de garanties pour la machine à voter, ou au besoin de mettre un peu de l'eau dans son vin de manière à écouter aussi les préoccupations de l'opposition, parce que vouloir s'atteler sur sa position selon laquelle sans cette machine à voter il n'y aura pas d'élection risquerait d'exacerber davantage les tensions qui ont prévalu avant que le président de la République n'arrive à annoncer son dauphin. Donc il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait faire pour que l'organisation des élections soit apaisée.
Merci Israël Moutala, vous allez réagir à cette réaction, une réflexion de monsieur Teddy Longué.
Augustin Teddy Longué, je suis à Bukavu, au sud Kivu. Tout en félicitant le président de la République d'avoir dissipé la confusion en nommant son dauphin, je pense qu'il serait beaucoup mieux qu'il puisse intervenir encore dans la question du fichier électoral et de la machine à voter, qui pose encore problème de la classe politique, afin de crédibiliser les processus électoraux.
Israël Moutala.
Je suis parfaitement d'accord que... Mais qui a quelques problèmes. Mais moi, je pense que aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont principaux, il y a ceux qui sont accessoires. Pour moi, je l'ai toujours dit, je préfère que il y ait un large consensus autour de la machine à voter. Je pense aussi que la question de la confiance sur le fichier, on peut encore la croître. Il y avait tellement de suspicions. Nous sommes dans, ça fait 3 ans que nous vivons dans un état suspicieux. On soupçonnait le chef de l'État de vouloir modifier la Constitution, de briguer, voilà, bref, de violer la Constitution. Il y avait, on est dans une psychose de suspicion permanente. Et donc, moi, je pense que même avec la machine à voter, et que si les partis politiques d'opposition sont organisés, et donc, il y a moyen de contrer la fraude. Et donc, pour moi, la machine à voter ne peut pas être un obstacle, voilà, à une victoire quelconque. Et donc, parce que, je le répète encore, il y a les bulletins papier existent, il y a des PV manuels. Et donc, si les opposants sont assez intelligents pour coaliser et déployer leurs observateurs dans tous les bureaux de vote, ils peuvent mettre en échec une quelconque fraude. Et donc, pour moi, c'est là la clé. Donc, tous les bureaux de vote, ils ont des listes. Il faut avoir ces listes-là et voir qui a voté. A-t-il des empreintes ou pas? Peu importe. Est-ce qu'il est sur la liste? La personne est réelle. C'est ça le vrai débat et tout ça. Et donc, moi, sur ces questions-là, je le dis clairement, j'aimerais un large consensus. Et donc, si les gens ne sont pas d'accord avec la machine à voter, qu'on la mette de côté. Mais si on n'arrive pas à un consensus, faisons avec.
La CENI dit que sans cette machine, il n'y aura pas d'élection.
Absolument, c'est ça. Elle parle de juillet 2019. Et donc, moi, je suis pas prêt à un nouveau cycle de négociations. Je suis pas prêt à une nouvelle. Voilà. Même tout à l'heure, Moleka avait dit qu'il fallait justement décrisper. Voilà, je suis favorable à ce que les mesures de décrispation soient prises hic et nunc. Et donc, j'aimerais que le processus électoral soit inclusif. Donc, je souhaiterais que Moïse Katoumi y participe. Mais là, aujourd'hui, son dossier n'a pas pu être acté, il n'a pas pu faire acte de candidature. Et donc, moi, je pense que travaillons à ce que les opposants ne peuvent que travailler pour qu'ils aient l'alternance. Et quand il y aura l'alternance, c'est dans 5 mois ou dans 6 mois maximum. Et donc, les mesures de décrispation, ils les prendront comme ils voudront. Et donc, on ne peut pas faire dérailler ou arrêter un processus parce que il y a encore des mesures de décrispation qui n'ont pas été prises. Je sais qu'il y a Diomi, les autres Muyambo et consorts, ils ont fait longtemps en prison, mais 5 mois de plus, ça ne tuera personne. Alors travailler à l'essentiel, l'accessoire s'y va. Et donc c'est ça ma petite réflexion sur ça. Et j'aimerais finir pour dire par exemple que sur la loyauté comme critère qui a prévalu au choix de
Emmanuel Chadari.
Oui, c'est un des critères, mais pas l'unique, parce que autour du chef de l'État, il y a plusieurs personnes qui lui sont loyaux, plusieurs personnes qui sont loyales. Minaku est irréprochable en termes de loyauté, même Matata en termes de loyauté, voilà. Il est resté en retrait, il n'a pas gêné le chef. Il y a plusieurs personnes qui pouvaient prétendre à ce critère-là. Et donc, Chadari...
Est-ce que ces choix ne vont pas diviser?
À part la loyauté...
Ces choix ne vont pas diviser. Est-ce qu'il y a une unanimité autour de la personne de Chadari?
Non, il n'y a aucune personne qui ferait l'unanimité. Mais voilà, le moteur de Kabila, le moteur de ces stratèges dont Néhémie Mouilania était de faire qu'on met une méthode impersonnelle et on met la discipline. Et pour que le choix du chef soit accepté par tous. Et donc même dans cette bataille pour la conservation du pouvoir, le meilleur atout de la majorité présidentielle récomposée FCC demeure Kabila. Donc tout dépendra de l'implication de Kabila aux côtés de Chadari, de la cohésion de tous les caciques, de tous les cadres du FCC autour de Chadari déterminera le succès électoral ou pas. Et donc quel qu'il soit, il faut que Kabila et les autres caciques s'impliquent pour que Chadari puisse évoluer politiquement.
Merci Christian Moleka. Une réflexion pour vous qui vient de Ilebo.
C'est Dinek Désiré Kazadi depuis Ilebo. Oui, le dépôt des candidatures a été marqué par plusieurs événements dont nous avons vu M. Jean-Pierre Mbemba qui a déposé sa candidature qui est frappé par l'article 10 de la loi électorale. Nous avons vu les candidats de l'ensemble, Moïse Katumbi, qui a traîné à la frontière congolaise et il a été empêché par le gouvernement congolais d'arriver dans son pays. Le troisième élément qui a été marqué par ce dépôt de candidature, c'est les deux regroupements tels que les FCC de la majorité présidentielle, qui où il y a l'absence de l'unité dans les FCC, a voulu déposer sa candidature au lieu d'être Chadari choisi par leur autorité. Et aussi, nous avons vu de l'opposition a voulu aussi déposer sa candidature, alors qu'il y avait une idée de déposer une candidature unique à l'opposition, prêchée depuis Jean-Voile, ce qui peut causer certaines réflexions sur l'avenir politique de l'opposition.
Christian Moleka.
Merci, M. Désiré Kazadi, pour le constat exactement. Il y a d'un côté le dépôt de candidature et de l'autre le traitement des dossiers. Là, nous verrons comment la CENI va, dans les jours à venir, traiter les différents dossiers et afficher les listes provisoires. Le débat que vous amenez, c'est la question sur la subornation. Attendons voir dans les jours à venir, comme on a attendu le dauphin, pour voir comment la CENI va traiter le dossier et va nous présenter les listes provisoires, aussi tant est qu'il y aura des contentieux. Donc, déposer, c'est une étape. L'autre, c'est le traitement des dossiers. En ce qui concerne la candidature de Monsieur Moïse Katumbi, je pense qu'on a tous suivi le feuilleton et son incapacité à rejoindre le territoire national suite à la fermeture du poste frontalier de Kasumbalesa. C'est quand même quelqu'un qui incarne une partie importante de l'opinion. Il aurait été intéressant de voir comment, dans une plus grande inclusivité, on pouvait chacun compétir et permettre à la population de décider. Et c'est fort dommage que son cas ne soit pas pris en compte.
Quelles pourraient être les conséquences, le fait qu'il y ait des candidats, n'est-ce pas, sérieux, qui soient exclus?
Je pense qu'on ne sortirait pas de la stabilité, parce qu'il y a c'est une autre chose de faire des élections et d'autres sorties de la crise. Il faudrait que les élections nous aident à sortir de la crise. Je peux donner un cas pratique. En Côte d'Ivoire, un certain Alassane Ouattara a été écarté du processus électoral. Avec la question de l'ivoirité, les élections continuaient, Ikona Bédié, Gueye, puis après on connaît la suite de l'histoire. Donc ce n'est pas parce qu'on l'écarte aujourd'hui qu'on règle le problème, on le règle pas. On peut dès demain mener d'autres formes de crises politiques qui peuvent nous replonger encore en arrière. Donc je pense que c'est un précédent fâcheux qui ne nous laisse pas et qui peut avoir plus tard des conséquences dans notre scène politique.
Oui, l'auditeur Di Lobo a évoqué cette question de l'opposition, n'est-ce pas, qui doit s'organiser pour avoir une candidature commune. Et Israël Mouta l'a relevé aussi. Et avec cette panoplie des candidatures dans l'opposition, est-ce que vous pensez que cette opposition serait à mesure, n'est-ce pas, d'avoir une candidature
commune?
Je suis
assez perplexe. En 2011, nous avions quelqu'un de si charismatique que Etienne Tshisekedi. Mais cette personnalité n'a pas pu rassembler autour de lui Kengo Adondo et Vital Kamerhe. Aujourd'hui, l'opposition est orpheline d'une personnalité charismatique. Peut-être que le retour de Bemba pourra aider d'avoir une personnalité forte. Mais on a dans l'opposition des personnalités, je dirais presque des mêmes envergures. Et donc, ce serait plus difficile de négocier dans ces contextes-là qu'en 2011. C'est pourquoi je dis que je demeure perplexe sur la capacité de l'opposition à se réunir autour d'un seul candidat.
Professeur Jack Ndimbi, vous avez relevé le fait qu'il y a des candidats, n'est-ce pas, qui font partie de la majorité présidentielle qui ont déposé leur candidature. Et comment vous entrevoyez la suite? Est-ce que ces candidats ne vont pas gêner celui qui venait d'être désigné aujourd'hui par le chef de l'État, Monsieur Emmanuel Chadari? Parce qu'il y a des candidats quand même qui ont un poids politique et connus comme les patriarches Gizenga.
Bon, je voudrais bien qu'on laisse le temps au temps, parce que en politique, je l'avais déjà souligné, que les alliances se font et se défont selon les intérêts. Lorsque quelqu'un estime que la candidature X n'est pas une garantie pour ses intérêts, bon, il peut aussi prétendre déposer sa propre candidature de manière à défendre ses propres intérêts ou soit encore les intérêts de son camp. Mais ce qui est évident, c'est que tous les candidats à l'élection présidentielle ne doivent pas oublier le fait que les élections sont organisées selon le scrutin majoritaire à un tour. Or, ce scrutin majoritaire à un tour implique que l'élu sera celui qui, dès le premier tour, aura réalisé le plus grand nombre de voix que les autres. La conséquence est laquelle? C'est qu'il faut alors éviter d'y aller en ordre dispersé. Si le camp qui pourrait avoir beaucoup plus de chances de passer, c'est celui qui réussira à fédérer le grand nombre de gens autour d'une personne. Et à ce moment-là, nous pensons que au premier tour déjà, on peut avoir beaucoup de suffrages exprimés et prétendre gagner l'élection présidentielle.
Voilà, vous avez suivi les uns les autres dans ces débats et qui ont pensé qu'il faut qu'il y ait un consensus, n'est-ce pas, autour de certains points, notamment la machine à voter. Et, mais aussi, il y a cette position de la CENI qui estime que s'il n'y a pas machine à voter, il n'y aura pas élection. Comment vous entrevoyez la suite du processus électoral, le professeur Diop Moudimbi?
Ici, je voudrais demander au président de la CENI d'éviter de briller par une certaine extravagance pour dire que bon voilà, sans la machine pas ceci, mais il y a lieu de se mettre d'accord et de créer un consensus. Vous voyez, on a parlé par exemple de témoins des partis politiques. Pensez-vous par rapport au nombre de partis politiques qui existent ici en RDC, s'il faudrait que chaque parti politique ait un témoin? Mais les gens seront asphyxiés dans le bureau. Ils vont d'abord se mettre où? Ça, c'est un problème technique très important. C'est ainsi que, j'insiste encore une fois de plus, que le consensus préalable sur un certain nombre de paramètres est très important pour que nous ayons des élections apaisées et qui ne pourront pas nous conduire plus tard encore dans des crises que nous avons tant déplorées.
Merci Israël Moutala, nous sommes à la fin de l'émission. Comment vous entrevoyez la suite du processus électoral en RDC?
Je souhaite qu'il soit le plus apaisé possible, qu'il débouche sur un processus, sur un transfert pacifique du pouvoir, c'est l'enjeu. Je ne pense pas que les élections soient une occasion pour les Congolais de s'entre-déchirer. Je pense qu'on doit travailler à l'unité, à la grandeur de notre pays, à faire en sorte d'éradiquer la pauvreté. De toute façon, les élections en soi ne sont pas une panacée. L'alternance non plus n'est pas une panacée. Ce qui est une panacée, c'est l'alternative aux pratiques de corruption, à la bonne gouvernance, à des idées de création de richesses, voilà, les infrastructures, travailler, les dévouements. Bref, on a un grand chantier, mais ne nous dispersons pas dans des futilités. Et donc, pour moi, un moment démocratique en décembre ne doit pas être une occasion de décohésion sociale, de décohésion nationale, mais d'unité. Et je pense que tous les fils et les filles de ce pays vont mettre l'intérêt général au-dessus de toute autre considération.
Christian Moleka, la suite du processus électoral, c'est votre conclusion aussi?
Les élections pour les élections ne valent. Il faut que les élections nous aident à aller vers de la stabilité. Et pour cela, il faut commencer à lever les écueils qui peuvent nous amener demain à des contestations ou à une crise post-électorale. Il nous faut encore travailler. Nous avons pris certainement une bonne lancée, mais il faut continuer à travailler pour amener le plus grand nombre de consensus possible pour que nos élections n'aboutissent pas à une crise post-électorale qui nous fera reculer encore de quelques années.
Alors aujourd'hui, on a clôturé avec le dépôt des candidatures. Quelles leçons peut-on tirer, n'est-ce pas, de cette étape? Parce que il y a beaucoup qui pensaient qu'il n'y aurait pas élection dans ces pays le 23 décembre.
Je pense que nous avons frôlé l'implosion. Nous avons frôlé presque la catastrophe. À l'avenir, il ne faudrait pas que nous arrivions à de tels scénarios pour que nous puissions avancer. Il faut qu'à un moment donné, nous intériorisons que le pouvoir, c'est un système qui peut dépasser un individu et qu'à un moment donné, le système peut travailler à sa régénération en mettant en place d'autres personnes qui l'incarnent. Je crois que c'est la grande leçon que nous pourrons tirer aujourd'hui.
Professeur Diop Moudimbi, votre conclusion?
Bon, ma conclusion, c'est tout simplement de saluer l'acte posé par le président de la République, de prouver à la face du monde que il est respectueux de la Constitution.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était la technique, à Dona Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipelamondo, à la présentation Guy Maté. Merci et à ce jeudi pour un autre débat. Bonne suite de programme sur Radio Capitale.